Salut Jade, content de te revoir depuis la journée d'études. Donc voilà, donc là aujourd'hui on va faire un petit podcast pour conclure en gros cette journée d'études. Donc on organise des podcasts avec les différents communicants. Et donc voilà, là je crois que tu es une des premières à réaliser le podcast, donc qui va porter sur la subjectivité dans la recherche, atout ou obstacle. Donc je vais t'introduire, je vais te présenter. Donc on est avec nous Jade Aramburu, donc qui a commencé sa thèse en 2022. Donc son projet de thèse, donc c'est sur la formation hôtelière contemporaine, et donc c'est plus précisément sur la socialisation professionnelle au métier de l'hôtellerie et de la restauration, notamment chez les femmes. Donc Jade, tu as fait une formation, donc licence et master psychologie à l'université de Rouen, ainsi qu'un master recherche en innovation et égalité sociale. Donc tu as de gros bagages avec toi, ça c'est cool. Et donc ta discipline scientifique, c'est la sociologie. Donc je tenais à rappeler que toi tu faisais une thèse non financée. Tu comptes la terminer vers 2028-2029. Donc c'est un gros travail, hein. Et donc, à côté de ta thèse, pour financer tout ça, tu es assistant d'éducation, justement, dans l'école hôtelière où tu enquêtes. Donc ça, je pense que c'est un gros avantage. Donc voilà, est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter sur ta présentation?
Oui, alors déjà, je suis désolée, je vais te reprendre, mais j'ai fait licence et master en sociologie,
ah, tu pardon, as dit psychologie, socio, donc je oh, sais purée. Pas. Ok, excuse-moi.
Bon, rien de mal. Après, je peux peut-être te donner quelques petites précisions. Donc, ma thèse, elle est encadrée par Sophie Devineau et Yannick Lenaf, donc du coup à l'Université de Rouen. J'avais déjà travaillé avec eux deux par le passé pour mes devoirs en licence et en master. Mes champs de recherche s'articulent principalement autour de la sociologie du genre, la sociologie de l'éducation, la sociologie des groupes professionnels, mais aussi la sociologie de l'esthétisme. Pour reprendre un peu, comme tu disais, il s'agit de faire une description de la socialisation professionnelle des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, il s'agit notamment de saisir le processus à travers lequel les individus apprennent un métier sur plusieurs plans, les compétences, les comportements, les normes et les valeurs associées à ce secteur professionnel. Et le tout sera regardé, comme tu disais, au prisme du genre, mais aussi de la classe. Comme tu le soulignais juste avant, je réalise une étude en immersion. Donc ça fait 3 ans maintenant que je travaille en tant qu'assistante d'éducation dans une école hôtelière. L'école hôtelière où j'enquête, c'est donc un établissement public polyvalent qui propose plusieurs types de formations, comme la filière technologique, la filière professionnelle, le CAP, le BTS ou encore les mentions complémentaires. Alors, pourquoi enquêter au sein d'une école hôtelière quand on travaille sur la socialisation professionnelle? Simplement parce que c'est le lieu où s'effectuent en grande partie les apprentissages qui sont destinés à être mis en œuvre plus tard dans le monde du travail, et que c'est donc aussi le lieu intermédiaire entre l'école et le marché du travail, et qui est donc un lieu soumis au mécanisme de discrimination de ces deux espaces distincts. Ma posture d'assistante d'éducation, elle me permet de suivre les élèves et plus précisément les filles, comme tu le disais justement, de leur entrée en seconde à l'obtention de leur baccalauréat ou non, et donc de mieux cerner les apprentissages qui ont eu cours durant leur scolarité au lycée. Il y a donc un travail de terrain qui est très important avec une présence systématique et prolongée, puisque je suis présente sur les lieux 4 nuits par semaine pendant 3 ans, donc là c'est ma 3e et dernière année. Et donc je réalise des observations quotidiennes qui sont complétées ensuite par des entretiens de type semi-directif qui sont menés avec les élèves afin de confronter les discours aux pratiques et donner du sens à ce qui a pu être observé, et aussi des entretiens avec le personnel de la vie scolaire, donc les assistants et assistantes d'éducation, mais aussi les CPE, pour étudier les dimensions normatives qui pèsent sur les pratiques de ces jeunes filles. Voilà.
Ok, non mais super, t'as bien fait de compléter, hein. Et encore désolé pour licence et master, je dis n'importe quoi.
Ouais.
on a prévu une petite trame de questions auxquelles tu dois devoir répondre. Donc c'était en rapport avec cette question de la subjectivité. Donc toi, en fait, comment tu t'es confronté à la question de la subjectivité dans ta recherche?
Alors, déjà, quand on réalise une étude en immersion, on est, à mon sens, d'autant plus confronté à cette question de la subjectivité. Et dans mon cas précis, c'est redoublé par le caractère long de l'enquête, comme c'est juste avant. La question de la subjectivité, elle est notamment sur deux points, là je pense que je vais centrer sur deux points. C'est le premier, c'est le fait que j'occupe une pluralité de statuts. Et le deuxième, c'est aussi par rapport à ma propre expérience corporelle. Alors, si je développe un peu sur la pluralité des statuts occupés, sur mon terrain, j'occupe à la fois le rôle d'une jeune chercheuse qui cherche à rendre compte des situations de manière la plus objective précise. Et en tant qu'assistante d'éducation, il va s'agir plutôt d'agir sur les pratiques dans une visée éducatrice. L'un des enjeux méthodologiques de ma thèse est donc, comme le disait la passade, de faire fonctionner ensemble sur le terrain l'observation qui implique une certaine distance et la participation qui suppose au contraire une immersion du chercheur dans la population qu'il étudie. Cette situation, elle peut amener à certaines tensions morales, puisqu'il s'agit de juger des situations et de se positionner différemment selon la perspective adoptée. Et parfois, les deux statuts peuvent entrer en contradiction. Par exemple, en tant qu'assistante d'éducation, je dois reprendre et sanctionner les élèves en cas de manquement quant au respect de la tenue école. Pourtant, en tant que chercheuse qui plus est féministe, je suis tentée de ne pas sanctionner ce type de comportement. Dans le même temps, c'est bien là le cœur de mon sujet, puisque je travaille sur la transmission des normes par le personnel de la vie scolaire, et appliquer ces mêmes normes que je cherche à mettre à jour, c'est bien voir en quoi les assistants d'éducation incarnent un modèle. Mais donc, à quel point est-ce que je peux créer des situations que je n'aurais pas autrement observées? Et si, en tant qu'AED, je suis censée suivre les consignes des CPE, quelle marge de manœuvre est-il possible de préserver pour ne pas nuire au terrain ou encore à la relation d'enquête? Parce qu'en fait, il faut veiller en permanence à ne pas entacher la relation d'enquête avec la relation pédagogique, qui sont deux relations bien particulières. Et l'une des questions qui traverse ma thèse notamment, c'est de savoir en quoi mes pratiques d'assistante d'éducation ont pu impacter ma relation d'enquête avec les élèves. Par exemple, le fait que j'ai sanctionné certains comportements, ça a pu nuire au développement de la relation pour ma suite. Ou à l'inverse, mes outils de chercheuse féministe ont pu permettre de trouver les bons mots face à des récits de violences sexistes et sexuelles et donc créer à la suite une relation de confiance. Donc ça, c'est pour le premier point, notamment sur la pluralité de statuts. Et ensuite, par rapport à mon expérience corporelle, comme je viens de le dire, à l'école hôtelière, il y a une tenue école à respecter. C'est un uniforme qui correspond grosso modo au port du tailleur. Et donc, les AED sont garants du respect de la tenue école et par la même occasion, sont contraints eux-mêmes à un certain code vestimentaire. C'est-à-dire que les assistants doivent porter le costume, porter un costume accompagné d'une cravate et de chaussures de ville. Et les assistantes, elles, même si elles disposent d'une plus grande liberté dans les faits, elles doivent en théorie porter un tailleur avec une chemise. Donc, comme les élèves, en fait, on doit apprendre à porter le costume. Et donc, j'ai pu expérimenter les effets de l'habit, comme Thibaut Menoux, qui avait fait une enquête en immersion dans la conciergerie de luxe, dans le cadre de son doctorat en sociologie, et qui expérimentait voilà, l'habit du concierge. Là, c'est un peu la même chose qui se passe pour moi en tant qu'assistante d'éducation. Et donc, si je peux donner quelques exemples, expérimenter les effets de l'habit, c'est notamment apprendre à se redresser avec le port de la veste ou encore adopter une allure un peu plus élancée grâce au talon. C'est un apprentissage qui se fait et en ce sens, c'est mon expérience corporelle, elle peut être aussi voilà, une façon de comprendre ce que vivent les élèves au niveau de leur apprentissage. Donc voilà, mon enquête par immersion, elle est traversée par de nombreux questionnements sur la subjectivité et notamment l'impact de cette subjectivité sur mon terrain et mes relations d'enquête.
Ok, la super réponse, en vrai c'était hyper intéressant. Puis moi ça m'a permis d'avoir un gros rappel aussi de ce qu'on avait vu, enfin de ce qu'on avait parlé durant cette journée. Et donc toi, à quel moment tu t'es interrogé justement sur la question de la subjectivité dans ta propre recherche? À quel moment tu t'es questionné là-dessus?
Alors, je dirais déjà que la question de la subjectivité, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup étudié dans les sciences humaines et sociales, qui sont souvent accusées à tort d'être subjectives, et donc c'est déjà des questions que j'ai étudié tout au long de mon cours, puisque comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait une licence et un master en sociologie. Et donc, c'était des questions que j'avais déjà un peu étudiées et que je savais que j'allais approfondir durant mon doctorat. Alors, dans un premier temps, j'ai plutôt cherché à contourner voilà, cette subjectivité. J'avais la volonté de ne surtout pas influencer mon terrain, malgré le fait d'une enquête par immersion. Et donc, au début, j'avais pris le parti de réaliser une enquête à couvert. Resituer un petit peu, donc j'ai réalisé un entretien d'embauche avec les deux CPE qui m'ont questionné notamment sur mes études et mon projet professionnel. Je leur avais annoncé que je comptais m'inscrire en thèse dès la rentrée de septembre. Et ensuite, lors de la rentrée scolaire et des présentations entre collègues, j'ai annoncé que je faisais une thèse de sociologie. Mais personne n'a vraiment insisté, posé de questions, donc ça m'a permis de rester couvert. Et
incognito,
les collègues, Voilà. Vu que les collègues ne le savaient pas, les CPE ne le savaient pas, la proviseure ne le savait pas, j'ai décidé de ne pas me révéler non plus auprès des élèves. C'est-à-dire que je disais que je faisais une thèse, mais sans approfondir. Et pour justifier un petit peu ce choix d'être incognito, il y avait plusieurs avantages pour moi au début. Premièrement, ça me permettait déjà de protéger mon enquête, puisque mentionner à mes collègues et à mes élèves que je réalise une enquête sur l'établissement et plus particulièrement sur elle et sur eux, sans avoir pu établir au préalable une relation de confiance, ça aurait pu conduire à une défiance ou à un refus de leur part. Ça me permettait aussi que les conduites ne soient pas trop modifiées sous le regard jugeant de la chercheuse. Et puis ça me permettait, dans un premier temps, de prendre mes marques, apprendre à m'orienter sur le terrain et à tenir notamment mon rôle d'assistante d'éducation. Ce choix, il a été fait en dépit d'un contexte qui est quand même peu propice aux enquêtes à couvert, avec la loi informatique et liberté, ou encore le RGPD, je ne t'explique pas ce que c'est. Et donc, ça, c'était voilà, une petite difficulté de l'enquête et aussi des difficultés. C'est-à-dire que mener une enquête incognito, ça peut se révéler difficile d'un point de vue psychologique aussi sur le temps long. Parce que sans affirmation d'un statut clair, c'est difficile de se penser comme chercheuse, et encore plus dans un contexte comme moi d'éloignement vis-à-vis de l'université. Et donc, voilà, un positionnement qui était difficile à affirmer au début. Donc, c'était un questionnement voilà, sur la posture à adopter. Et ensuite, la subjectivité, elle s'est posée aussi dans le cas de l'observation participante. C'est-à-dire qu'il faut toujours, il faut à la fois s'impliquer dans la collectivité et en même temps toujours se maintenir assez détaché pour prendre de la distance et garder son regard de sociologue. Et c'est aussi donc une distance qu'il faut trouver avec les invités, que ce soit les collègues avec qui peut se nouer des relations d'amitié ou aussi avec les élèves, trouver la bonne distance en tant que chercheuse, en tant qu'assistante d'éducation, en tant qu'individu. Et donc c'est une question qui se pose vraiment dans le cadre de ma thèse au quotidien, donc je suis présente manière quotidienne sur mon terrain et le caractère voilà régulier et long ça me met aussi ça me demande de faire beaucoup attention au fait de ne pas me laisser happer par mon terrain et par mon statut d'assistante d'éducation et de toujours garder des moyens de trouver des moyens de rester sociologue et voilà et aussi la familiarité qui peut menacer parfois d'une perte de distance. Donc c'est vraiment une question qui a traversé à la fois mes études mon entrée sur le terrain et puis toujours de manière quotidienne.
Ok, et donc la prochaine question, c'est peut-être un petit peu en lien avec ta réponse sur le fait de ne pas forcément donner ton statut au début, quoi, quand tu es arrivé. Est-ce que tu as déjà ressenti que la subjectivité, c'était un obstacle pendant ta thèse?
Oui, alors comme je disais déjà, le statut incognito, il a quand même été, c'était un choix, mais il a quand même été très difficile à tenir au début, de ne pas avoir d'alliés, puisque quand même, comme je disais tout à l'heure, nouer des relations privilégiées avec certains entités,
Bah
ça permet aussi, de se sentir plus dans son rôle et d'accumuler un certain matériau. Et je pense que ce qui était le plus dur, c'est vraiment cette pluralité des statuts que je disais au début, qui est difficile à appréhender au quotidien, c'est-à-dire savoir à partir de quel statut je parle, à partir de quel statut j'agis, est-ce que je suis plutôt AED, est-ce que je suis plutôt chercheuse, est-ce que je suis juste un individu dans une situation. Et pareil pour la question de la bonne distance dans les relations, qui est quand même compliquée à vivre, et je trouve la difficulté, là où c'est aussi un obstacle. C'est à la fois un atout et un obstacle, c'est-à-dire quand on est en immersion, je trouve qu'on est quand même la personne qui est le plus à même de connaître son terrain et de savoir comment s'y comporter. Et en même temps, voilà, beaucoup de solitude et beaucoup, ça demande au quotidien de s'adapter puisqu'il n'y a rien d'écrit, rien de figé dans les interactions. Donc c'est aussi une remise en question constante et ça peut être un peu difficile à tenir sur le long terme, tout le fait que ce soit important de se poser voilà, par
Bien
moment
sûr.
pour réfléchir à la subjectivité dans nos recherches.
Et donc justement, est-ce que du coup t'es parvenu à en faire un atout? Ou pas du tout?
Oui, alors là, on a présenté les obstacles, mais à mon sens, la subjectivité dans mon enquête, c'est quand même particulièrement un atout. C'est d'ailleurs ce qui était ressorti de ma présentation lors de la journée d'études, c'est que moi, j'avais fait une présentation exclusivement centrée sur en quoi la subjectivité, c'était un atout. Et ma problématique, si je me souviens bien, c'était en quoi l'expérience personnelle de la chercheuse était une voie d'accès aux connaissances. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un atout d'être immergé dans son terrain, de comprendre à la fois le fonctionnement global, de comprendre tous les individus, les interactions et l'univers aussi qui constitue vraiment ce terrain. Pareil, le fait de pouvoir avoir des relations vraiment privilégiées avec certains collègues. Moi, quand je suis arrivée dans la région, je ne connaissais personne. Et en fait, par le biais de collègues, très rapidement, mon cercle social s'était constitué de personnes exclusivement de personnes qui avaient travaillé ou qui travaillent encore à l'école hôtelière. Donc ça, pour moi, c'est une certaine richesse aussi. Ça permet quand même d'avoir pas mal de discussions informelles sur un ton plutôt amical. Ça permet aussi ce partage de l'expérience professionnelle, d'avoir accès aux informations qu'on n'aurait pas si on était à l'extérieur du terrain. Hein, et ça permet aussi de partager des anecdotes, par exemple pendant les entretiens. C'est ce qui permet de remettre tout de suite, de parler directement des pratiques sociales, vraiment d'être centré sur ces pratiques. Et je vois bien les entretiens que j'ai menés. Donc pour l'instant, j'ai fait avec des assistants d'éducation et avec des élèves. Les assistants d'éducation et les élèves, c'est des entretiens qui sont extrêmement longs, ça dure généralement plus de 3 heures. Quand c'est avec les collègues, je suis invitée chez eux. Parfois, les entretiens se font dans la salle de bain, assis sur les toilettes. Enfin, c'est vraiment une proximité, une richesse qui, à mon sens, n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas partagé, voilà, ce quotidien. Et voilà, là, je confesse, pour moi, vraiment, cette subjectivité, elle est un atout.
Ok, donc oui, donc ouais, ça se voit, enfin, vu que tu étais déjà venu pour présenter le fait que la subjectivité était un atout au cours de la journée, du coup, cette journée d'études qu'on a réalisée, ça t'a plus conforté, enfin, ça a plus conforté ton idée, quoi. Ou pas
Ça a
forcément.
conforté moi. Et en fait, c'est marrant parce que moi j'ai fait une présentation où la subjectivité est un atout, mais je me suis rendu compte que je l'avais présentée comme ça uniquement quand la première personne, je crois que c'était Sacha, a dit: Ah, mais tu as pris le contre-pied en présentant exclusivement comme un atout. Et moi, j'avais pas réalisé pour moi, c'était vraiment un atout. Et après, je trouve que là où c'était pas mal aussi, c'est quand on avait fait la mise en pratique, là où on voyait quand
Le
même,
débat, ouais, un petit peu.
on se posait des questions, voilà, sur le sujet de recherche, est-ce que c'est un atout, un obstacle de l'avoir choisi, d'être impliqué. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, c'est pas vraiment être un atout ou un obstacle, finalement, c'est un continuum, mais c'est la façon dont on se saisit de la question qui permet soit d'en faire un atout, soit d'en faire un obstacle. Pour moi, si on a une
Exactement,
vraie
ouais.
réflexion sur sa subjectivité, voilà, c'est ce qui permet de faire de la recherche. Voilà.
Oui, bien sûr. Bah, je pense que tout au long d'une recherche, même d'une thèse, il y a des moments où on va peut-être se dire que c'est plus un obstacle à ce moment-là sur certains aspects, et à d'autres moments où c'est plus un atout. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Exact. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune chercheur s'il appréhendait un petit peu la subjectivité au cours de sa thèse?
Sens déjà écrit, il faut beaucoup, beaucoup lire parce que c'était quand même des thématiques qui ont été énormément discutées. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses sur la subjectivité qui peuvent être ensuite réutilisées dans le cadre de sa recherche. Et puis surtout, voilà, discuter un maximum avec d'autres doctorants, d'autres chercheurs pour justement discuter. On a tous en commun finalement cette expérience de la subjectivité, et c'est quand on se rencontre, on peut voilà, mieux cerner les enjeux, et puis de manière un peu informelle, trouver des pistes pour se saisir de la subjectivité et la transformer en atout. Et c'est un peu ce qui s'est passé, voilà, lors de ma participation pour la journée d'études, de trouver des pistes.
Ok, super. Moi, j'espère que ça servira, cette réponse servira au futur doctorant ou thésard. Du coup, pour l'année prochaine, on a décidé enfin, on est en train de monter le projet pour la journée d'études de l'année prochaine. On aimerait bien parler un petit peu de la créativité dans la recherche. Et toi, là, vraiment, au feeling, quelle place, en gros, penses-tu accorder à la question de la créativité dans ta recherche?
intéressante. Je n'ai pas encore beaucoup posé dessus. Au feeling, je dirais que la créativité, ça passe déjà par le fait, quand on mène une revue de littérature, d'oser un peu s'éloigner de ces sujets de prédilection, aller voir un peu ailleurs pour voir ce qui se fait et potentiellement trouver. Ça, des fois, ça nous permet un peu de décentrer notre regard et de trouver des choses à mettre en œuvre dans notre recherche, mais en s'intéressant à d'autres thématiques. Et puis après, ouais, la créativité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une question d'adaptation, il faut être créatif sur son terrain. Trouver des façons de faire fonctionner le tout sur le terrain, s'adapter, et puis même aussi dans la, comment dire, dans la gestion de sa recherche, il faut être créatif quand ça ne fonctionne plus, par exemple, de lire des articles, il faut aussi pouvoir passer à autre chose, écrire un peu, il faut être assez, ouais, assez créatif, surtout quand c'est sur le temps long, pour pouvoir continuer sa thèse et la réussir.
Ok, bah très bien, bah merci pour tes réponses. Bah on en a fini aujourd'hui pour ces petites questions, pour ce podcast. Donc j'espère que tu as bien aimé partager ce petit moment, enfin répondre à ces questions. Voilà, bah merci beaucoup en tout cas, Jade. C'était super.
Écoute, merci beaucoup à toi et merci aussi pour l'invitation à la journée d'études.
Super.
Merci d'avoir suivi ce podcast qui vous a été proposé par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble des épisodes de cette journée comme des précédentes qui ont eu pour thème la construction de l'objet de recherche durant la thèse et le corps à l'épreuve de la thèse.